Vous écoutez
RMC. RMC, le dossier des GG.
Alors c'est l'événement dans les grandes gueules du sport ce matin, un dossier spécial dopage après l'affaire Yannick Sinner qui a beaucoup fait parler, les doutes incessants autour des performances de certains cyclistes, notamment Tadej Pogacar, c'est extrêmement rare. L'Agence mondiale antidopage prend la parole ce matin sur RMC avec Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux évidemment de vous recevoir ce matin sur RMC. Vous vous en doutez, on a beaucoup de questions à vous poser sur les affaires récentes, mais aussi savoir comment lutter efficacement contre le dopage. Depuis quelques années, la nouvelle défense des sportifs quand ils sont attrapés par la patrouille, c'est la contamination extérieure. Le professeur Jean-Claude Alvarez est également avec nous ce matin. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Directeur du service toxicologique de l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Garches. Vous êtes l'homme que tous les sportifs s'arrachent. Vous tentez de prouver l'innocence des sportifs, prouver qu'il y a une contamination et non un dopage intentionnel pour les cas les plus célèbres. Vous vous êtes occupé des tenniswoman Iga Świątek et Simona Halep, ou encore de l'escrimeuse française récemment avant les Jeux Olympiques de Paris, Isaura Tibus. On va débuter tout de suite avec vous, chers invités et les grandes gueules du sport, ce dossier avec l'affaire la plus chaude, l'affaire Yannick Sinner. Anthony Reich, notre journaliste RMC Sport qui suit de très près cette affaire depuis le début, est avec nous. Bonjour Anthony.
Salut Jean-Christophe, bonjour à tous.
Alors,
salut
pour tous ceux qui nous écoutent, pour les auditeurs évidemment, pour remettre en contexte, l'affaire Sinner, c'est quoi? Comment ça s'est passé?
Eh bien, reprenons dès le départ, dès le début. En mars 2024, Sinner est contrôlé positif deux fois en huit jours au Clostebol, un stéroïde anabolisant inscrit sur la liste des produits interdits par l'Agence mondiale antidopage. Entouré d'une armée d'avocats, l'Italien plaide tout de suite pour une contamination par le biais d'un massage de son physiothérapeute. Ce dernier avait utilisé un spray contenant cette molécule qui permet notamment de réduire la fatigue. Le temps de l'enquête, qui reste secrète, non publique, Sinner peut continuer à jouer Roland-Garros notamment. Cette enquête conclut que le numéro 1 mondial n'a commis aucune faute ni négligence. Initialement donc blanchi par l'Agence pour l'intégrité du tennis, appelée l'ITIA, Yannick Sinner voit l'Agence mondiale antidopage interjeter appel en septembre dernier après sa victoire à l'US Open pour réclamer une suspension d'un à deux ans. Finalement, le 15 février dernier, l'AMA et Yannick Sinner annonce la conclusion d'un accord pour une suspension de 3 mois, je cite. Nous avons accepté rapidement, même si je n'étais pas forcément d'accord, expliquera le numéro 1 mondial. L'Italien purge donc actuellement sa suspension jusqu'au 4 mai et pourra reprendre la compétition chez lui lors du Masters 1000 de Rome à partir du 7 mai.
Et Anthony, après cette suspension, beaucoup de sportifs ont réagi.
Oui, effectivement, depuis le dévoilement de l'affaire, qu'on peut appeler affaire Sinner, au cours du mois de juin 2024, beaucoup de tensions se sont créées, réactions dans la planète tennis. Tout d'abord, Nick Kyrgios, l'Australien, Lucas Pouille, le Français ou encore Stan Wawrinka estimaient notamment anormal la gestion du dossier en catimini et fustigeaient le deux poids deux mesures et deux mesures dans le tennis mondial. Depuis l'annonce de la suspension de Sinner, Serena Williams n'a pas hésité à dire qu'à la place de l'Italien, elle aurait écopé de 20 temps de suspension et peut-être se serait vue retirer quelques tournois du Grand Chelem de son palmarès. Enfin, l'ancienne championne olympique italienne de natation, Federica Pellegrini, a évoqué récemment un traitement de faveur pour Sinner. Et puis on peut également citer Raphaël Nadal qui a défendu l'Italien, arguant qu'il n'a jamais voulu tricher.
Merci beaucoup Anthony Reich pour toutes ces précisions. Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, on commence avec vous. Quand on expose les faits, un accord avec seulement 3 mois de suspension, il ne manque aucun gros tournoi, il revient chez lui à Rome. Est-ce que vous comprenez que cela puisse choquer le grand public et, on l'a entendu, les sportifs aussi?
Écoutez, je pense que chaque cas doit être jugé au regard des faits qui existent et également, et je pense que c'est le rôle de l'Agence mondiale antidopage, de s'assurer que les règles du Code mondial antidopage et des standards internationaux soient appliquées. Ce qui a été le cas dans cette situation pour cet athlète et la situation à laquelle il a fait face avec une réduction, si vous voulez, de la sanction normative est quelque chose qui a été appliqué précédemment dans plusieurs dizaines de cas et correspond à une disposition du Code mondial antidopage lorsque la sanction est jugée inappropriée, trop stricte, si vous voulez, au regard des faits. Donc je pense que le cas de cet athlète montre que le système fonctionne, puisque le cas a été révisé de près par deux instances. Elles sont peut-être arrivées avec des conclusions différentes, mais le rôle de l'AMA est de s'assurer que les règles du Code mondial antidopage sont appliquées, et c'est la raison de notre appel, même si au final la sanction a été ajustée au regard du mérite et des faits du cas spécifique de cet athlète.
Mais alors, professeur, pourquoi ce revirement? Parce que dans un premier temps, vous aviez voulu être assez sévère. C'est vous qui avez décidé de présenter l'affaire devant le TAS. Vous demandiez 1 ou 2 ans de suspension. Et finalement, on se retrouve avec une sanction minime, quelque part. C'est Sinner lui-même qui vous a convaincu. On dit qu'un accord a été trouvé. Mais comment on peut trouver des accords comme ça et passer de 2 ans de suspension à quelques mois seulement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement vous décidiez que c'était pas si grave que ça?
Non, alors si vous voulez, le jugement ou les jugements que l'AMA a émis sont des jugements qui ne sont pas basés sur les émotions mais sur les faits et l'application du code au regard des faits. Et je pense que dans un premier temps, vous l'avez mentionné, l'ITIA n'avait prononcé aucune sanction, ce qui n'était pas en ligne avec les règles du code. C'est la raison dans un premier temps pour laquelle l'Agence mondiale antidopage a fait appel de ce cas. Ensuite, une fois que les éléments ont été avérés, discutés, échangés, il y a, et je reviens à ce point qui me paraît assez fondamental dans ce cas-là, une provision du Code mondial antidopage qui est très claire et qui indique que lorsque la sanction est jugée trop stricte au regard des faits et des faits avérés, il y a possibilité de réduire la sanction. Et c'est ce qui a été le cas. Maintenant, il n'y a pas eu, si vous voulez, de troc avec l'athlète lui-même. L'AMA applique les règles de façon stricte. Et comme je vous le disais, il y a eu plusieurs dizaines de cas, en fait à peu près 70 cas, où cet article du Code mondial antidopage a été appliqué. Donc le cas Sinner n'est pas un cas particulier, c'est un cas avec lequel un certain nombre de règles s'appliquent une fois que les faits sont échangés, connus et avérés.
Mais pour l'opinion publique, comprenez que c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que l'ITIA dans un premier temps décide, il n'y a rien, il ne sera pas sanctionné, vous faites appel en disant il faut le sanctionner durement, puis finalement vous arrivez à un accord. Vous comprenez que ce changement finalement de politique de la part de toutes les instances antidopage ait pu choquer l'opinion publique?
Alors, ce n'est pas un changement de politique, si vous voulez. C'est après la façon dont différentes instances peuvent interpréter et appliquer le Code mondial antidopage. Le choix de l'ITIA a été de déclarer qu'il n'y avait pas de faute de l'athlète. Or, le Code, dans ce cas, on peut peut-être nous reprocher d'être trop strict à ce sujet, mais le Code dit clairement qu'à partir du moment où une substance est retrouvée chez un athlète et qu'il y a négligence même de l'entourage, en tout cas, c'est comme ça que le Code mondial antidopage présente les choses. On ne peut pas invoquer un cas de no fault, d'aucune faute. D'autant que c'est l'entraîneur fitness donc, qui avait fourni la substance. Donc il y a tout un contexte aussi que l'on doit prendre en compte. Et c'est la raison pour laquelle il y a sanction, mais que la sanction a été réduite au regard des faits qui ont été avérés et reconnus, à la fois du côté de l'athlète et dans toutes les informations qu'on a pu regarder de près dans ce cas particulier.
Olivier Rabin, directeur Sciences et Médecine de l'Agence mondiale antidopage, est avec nous ce matin dans ce dossier spécial dans les grandes gueules du sport sur RMC. On donnera évidemment la parole au professeur Jean-Claude Alvarez dans quelques instants, puisque vous connaissez bien ces histoires de contamination. Sarah Pitkowski.
Oui, monsieur Rabin, on parle de tennis et vous venez de citer à plusieurs reprises donc l'ITIA, qui est donc en fait un organe qui fait, semble-t-il, la même chose que vous, mais uniquement dans le tennis. Et c'est là que ça devient un peu complexe, c'est-à-dire qu'on a une agence mondiale antidopage, et pourtant le tennis, c'est
doté... Et des agences nationales aussi, un peu
absolument,
partout.
Absolument. Et le tennis a voulu, ou s'est octroyé, en tout cas, s'est doté d'un organe qui, lui, prend aussi ses décisions. Mais effectivement, la difficulté, c'est que cet organe qui a aujourd'hui a été le premier à juger et a révélé donc les deux cas de contrôle positif de Yannick Sinner. Cet organe-là, au départ, il a été créé, il faut le rappeler, pour les paris truqués. C'est-à-dire un vrai fléau dans le tennis. Et puis, les années avançant, eh ben en fait, elle s'est octroyée le droit, en tout cas, de prendre en charge les contrôles antidopage. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est: pourquoi l'AMA a-t-il cédé à l'ITIA le sujet du dopage dans le tennis? Et pourquoi, finalement, l'AMA n'est pas le seul et unique organe qui devrait aussi réguler le sport qu'est le tennis?
Alors, votre question est tout à fait pertinente. Je crois qu'il faut très bien comprendre la façon dont le système fonctionne. Et tout ceci, il faut quand même garder à l'esprit Les règles antidopage ne sont pas des règles édictées seules par l'Agence mondiale antidopage. L'Agence mondiale antidopage a un rôle, si vous voulez, de colliger les attentes de différents acteurs du mouvement sportif ou des autorités publiques afin d'édicter des règles qui s'appliquent à tous. Il y a dans tous les systèmes juridiques, et l'antidopage n'y échappe pas, une première instance. Et la première instance ne relève pas du rôle et du mandat de l'Agence mondiale antidopage, mais relève des fédérations sportives ou des agences nationales antidopage. Ça existe également en France, avec la FLD, qui a une possibilité de jugement en première instance. Donc, même chose pour les fédérations internationales, et la Fédération internationale de tennis n'y échappe pas. Le rôle de l'Agence mondiale antidopage est un rôle un peu différent. On a un droit d'appel, de telle façon à nous assurer que les règles du Code mondial antidopage et des standards internationaux associés soient correctement appliquées. Donc quand vous prenez un peu ce recul et vous regardez la façon dont le système fonctionne, il est tout à fait normal qu'un athlète dans le tennis soit jugé en première instance par des autorités compétentes de son sport, ce qui a été le cas avec l'ITIA. Et ensuite, si la décision est considérée non conforme avec le Code mondial antidopage, le droit d'appel de l'AMA peut être exercé. C'est ce que nous avons fait dans ce cas-là. Et ça s'applique à des dizaines de cas chaque année. Donc, il n'y a pas de traitement de faveur pour le tennis ou pour l'athlète en cause.
Et c'est là que vous intervenez, mais c'est vrai que le traitement de faveur, c'était peut-être que l'ITIA est caché, mais c'était son droit dans les textes, hein, de cacher pendant de nombreux mois que Yannick Sinner avait été contrôlé positif en mars, et puis finalement, ouais, ça avait été
C'est le règlement de l'ITIA aussi qui dit que quand une suspension est provisoire et que quand le joueur prouve effectivement que sa bonne foi... Ben, en fait, l'ITIA dit, et c'est dans ses règles, dire qu'il n'a pas à communiquer, sauf si c'est le joueur qui veut le faire, n'a pas à communiquer sur ce contrôle.
Et c'est pour ça que là-bas, on l'a très bien compris avec Olivier là-bas, Rabin, contrôle tout
exactement.
Ça, et donc c'était très clair.
Et c'est pour ça que tout est arrivé par moi interposé, et ce qui crée aussi une
ce forme
de...
le flou, c'est
de
sûr.
De flou, et oui, absolument, une injustice.
Jérôme Pinault avec Olivier Rabin.
Oui, Olivier, bonjour. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, et j'aimerais, pour éclairer un peu nos auditeurs, comprendre comment est financé l'AMA. Comment fonctionne le financement de l'AMA et quelles sont les relations de l'AMA avec les fédérations internationales?
Alors écoutez, l'AMA a un fonctionnement budgétaire qui est très simple et très transparent. La moitié de notre budget vient du mouvement sportif international représenté par le Comité international olympique. Et l'autre moitié de notre budget vient des autorités publiques, à savoir tous les gouvernements du monde qui contribuent avec une part, selon la répartition des Nations Unies, au budget de l'Agence mondiale antidopage. Donc on s'appuie sur ces deux piliers pour le financement annuel de l'agence.
Très bien. Ce qui m'emmène sur une seconde question. On s'aperçoit, et de plus en plus, et pour avoir été parfois en première ligne, en tant qu'athlète, mais aussi en tant que manager général, sur ces fameuses agences nationales, et notamment la FLD. J'ai eu ouï dire et entendu et parfois vécu l'annonce au préalable et la mise en garde au préalable avant toute sanction ou toute, continuité dans une affaire ou dans un cas suspicieux. Je m'en explique plus clairement. Il se peut, il n'est pas impossible qu'une agence nationale puisse prévenir le manager, le patron d'une équipe que l'un de ses coureurs serait bien qu'il se repose ou qu'il se mette un peu au repos ou qu'il disparaisse un peu de la circulation parce que son suivi ou un contrôle n'a pas été du plus clair. Est-ce que vous êtes, vous, à la main, au courant de ce genre de pratique, de démarche parfois, ou est-ce que justement ça passe sous les radars de l'AMA avant que vous en soyez saisi?
Alors écoutez, je comprends la situation que vous décrivez, je n'ai pas d'exemple qui a été apporté à mon attention.
Moi j'en ai.
Je vous entends tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agence a une unité qu'on appelle enquête et intelligence, dont le rôle est justement de collecter ce type d'informations à partir du moment où des athlètes pourraient être prévenus ou l'entourage d'un athlète pourrait être prévenu de manquements éventuellement aux règles ou de résultats suspects. ce sont des informations qu'il n'est pas lieu de partager avec un athlète ou avec l'entourage d'un athlète. Donc si de telles pratiques aujourd'hui venaient à l'attention de l'Agence mondiale antidopage, nos collègues des enquêtes et de l'intelligence auraient certainement un rôle à jouer pour vérifier ces informations et si elles sont avérées, avoir la possibilité éventuellement de sanctions envers une organisation antidopage qui aurait de telles pratiques. On a parfois des informations qui remontent du terrain. Elles sont analysées par mes collègues qui sont des policiers ou des gens qui ont été formés dans les services secrets de telle façon à mener des enquêtes et de telle façon à révéler si ces informations sont fondées ou non. Et il y a ce qu'on appelle chaque année des violations des règles antidopage qui ne sont pas liées à des tests réalisés dans les laboratoires antidopage, mais au contraire qui sont révélées par des enquêtes.
Par des méthodes. J'ai une dernière question, si je peux me permettre, JC.
Vas-y, Jérôme.
C'est sur ce que l'opinion publique et les amoureux du sport éprouvent et ressentent comme être des sanctions, on va dire, un peu à double tranchant ou une grosse différence de sanctions selon le rang de l'athlète. J'en entends par, moi je vous mets deux cas qui sont à ma connaissance, celui le plus public et qu'on a le plus connu, le cas Sinner. Et moi j'ai un cas aussi qui m'a beaucoup touché, qui m'a touché personnellement, puisque j'étais son patron, le cas Bonamour. Et j'ai le sentiment, comme beaucoup de nos amis, des passionnés de sport, que la sanction n'est pas la même selon le niveau et le rang de l'athlète. Est-ce que vous êtes tout à fait opposé à ce genre d'idée? Ou est-ce que vous n'êtes pas
le
contre dire qu'on
mesure.
S'adapte? Exactement. Est-ce qu'on s'adapte un peu? Parce que c'est un numéro un mondial dans un sport très puissant. C'est pas la même chose qu'un petit coureur breton dans un sport où il faudrait pas arrêter les grands, mais les petits, il faut bien que ça tombe de temps en temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, pas du tout. Permettez-moi de m'inscrire en faux avec une telle affirmation pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le Code mondial antidopage s'applique à tout le monde et ça a été la volonté il y a 25 ans maintenant d'établir un code uniforme qui s'applique dans tous les sports et dans tous les pays, premier point. Donc ça a été quand même une des grandes avancées sous le mandat de l'Agence mondiale antidopage d'avoir des règles qui s'appliquent à tout le monde dans un premier temps. Dans un deuxième temps, moi je le vois quand je révise des cas et j'en révise quand même très régulièrement, je ne souhaite absolument pas connaître la nationalité de l'athlète ou son nom. Pour moi ça n'a rien à voir, je regarde les faits scientifiques parce que lorsque on doit juger d'un cas et qu'ensuite ce cas peut être l'objet d'un appel au tribunal arbitral du sport, ce sont les faits scientifiques qui doivent parler. Ensuite, et c'est là peut-être que je rejoins un peu votre point, des athlètes ont des moyens financiers différents et certains peuvent s'offrir les services d'avocats et de scientifiques qui vont avoir un regard beaucoup plus pointu sur leur cas et peut-être venir avec des explications ou un angle de défense que n'aurait pas forcément un athlète moins bien financé et ayant moins la possibilité d'avoir accès à cette expertise. Là, effectivement, il peut y avoir une différence. Et encore aujourd'hui, vous avez des fédérations internationales qui permettent de mettre des dispositions pour les aider dans une démarche antidopage. Et ça existe, et l'AMA a même créé ce qu'on appelle en anglais un ombudsman, c'est-à-dire une personne qui est un médiateur, de telle façon à ce que des athlètes, y compris ceux qui n'ont aucun moyen ou très peu de moyens financiers, puissent se tourner vers ce médiateur et bénéficier d'informations et de conseils de premier ordre. Donc je pense que le procès, qui est un peu facile à mon avis, vu de l'extérieur, du deux poids deux mesures, ne se vérifie pas. Maintenant, dans les moyens qui sont mis à la disposition d'athlètes pour se défendre, effectivement, il peut y avoir une certaine disparité.
Le deux poids deux mesures, on continue d'en parler car vous n'êtes pas d'accord, professeur Alvarez. Vous allez avoir la parole et on poursuit la discussion sur Yannick Sinner. À tout de suite sur RMC.